philosophie éthique par le père Philippe à Saint-Jodard, le 1er juin 1992.
La visite du cardinal est-elle de l'éthique religieuse ou de l'éthique chrétienne? Vous vous posez la question, non, puisque vous devez recevoir le cardinal avec intelligence. Et il montre que vous êtes intelligent. Donc la plupart du temps, c'est stère. Bon, si le cardinal vous pose des questions, vous pouvez poser des questions. Le cardinal n'est pas directement notre supérieur. Situation assez curieuse. Puisque le supérieur, c'est Mgr Segui. Qui est en dehors du territoire du cardinal. Alors, il devrait venir de temps en temps voir le noviciat, tâter le pouls du noviciat. Il n'a pas beaucoup de temps. Alors, il ne fait pas beaucoup. C'est une visite donc très amicale, tandis que nos heures contemplatives dépendent du cardinal. C'est leur supérieur, immédiat. Évidemment, le pape reste le supérieur premier. C'est le privilège des religieux. C'est qu'ils ont la possibilité d'avoir directement le Saint-Père comme supérieur. Alors, priez pour lui. Première chose à faire. Le remercier de venir. Puis on aura, je crois, après la messe, un petit moment avec lui. Il servira de troisième cours. Alors, petite question. Pourquoi la justice sociale s'étudie-t-elle en éthique religieuse et non pas en éthique fondamentalement humaine? Ne pourrait-on pas la considérer au sein même de la justice distributive? En effet, l'exercice de la justice par rapport à la personne ne réclame pas nécessairement de croire en Dieu créateur. C'est sûr, je suis tout à fait d'accord. La justice distributive joue le rôle qu'on regarde les qualités de la personne et les responsabilités de la personne. Tout à fait d'accord. Mais, situation de fait, c'est que l'industrialisation qui a rendu les problèmes beaucoup plus complexes. Et c'est tout à fait autre chose quand il y avait l'artiste, le maître et les compagnons. Un petit atelier artisanal où on connaît tout le monde. Mais autre chose est un enseignement familial en communauté religieuse. Autre chose, un enseignement officiel où on ne connaît pas beaucoup les gens. À tous les degrés, on trouve ça. Et alors, de fait, le point de vue de l'efficacité risque toujours de l'emporter. Parce que c'est ça, c'est l'efficacité. Alors, est-ce que la justice proprement humaine suffit à dépasser l'efficacité? Elle devrait, je suis d'accord. Puisque la personne humaine peut se comprendre indépendamment de la relation vis-à-vis de Dieu. Ça, c'est sûr. Et la justice distributive se comprend indépendamment de la découverte, de la relation, de la référence au Dieu créateur. De fait, on voit que l'efficacité et l'efficience est tellement forte que la plupart du temps ça ne suffit pas. On peut dire tout le temps ça ne suffit pas. Pour qu'il y ait un respect suffisant vis-à-vis de la personne humaine. Parce que vous comprenez, s'il n'y a pas la relation religieuse, la découverte de l'âme peut se faire. Mais cette découverte de l'âme Ça reste avec un grand point d'interrogation. D'où vient-elle? Où va-t-elle? C'est pas très déterminé. Et donc, le respect à l'égard de la personne risque tout le temps d'être dépassé par le point de vue de l'efficacité. L'efficacité a une telle puissance, une telle force dans notre monde d'aujourd'hui. Donc dans un monde industrialisé, où l'industrie a pris une importance énorme. Oui, puisque ça gagne même le point de vue. Tout ouvre, c'est comme l'agriculture, tout ouvre, très bien. Bon, il y a une espèce d'univocité terrible, c'est la nouvelle univocité dans l'ordre pratique que l'efficacité. Ça, je crois qu'il faut être très attentif à ça. De sorte que la personne humaine est comme submergée par cela. C'est très vrai, on devrait que la justice distributive devrait donner ce sens de la personne et respecter le sens de la personne. Mais de fait, s'il n'y a pas cette référence à une âme spirituelle et à une personne, et comprendre que la famille est de droit divin. Voyez les lois actuelles en France, dans des situations où il vaut mieux être célibataire que d'être marié, ça coûte moins cher. Et là, il vaut mieux être célibataire, à ce point que certains se sont posé la question, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux que le mariage religieux soit clandestin et qu'officiellement, on soit tous en concubinage. Vous comprendrez bien, au fond, les lois tendent vers ça. Ce qui montre que la justice distributive, que le point de vue de la personne est complètement abandonné parce qu'on ne regarde que l'efficacité. C'est terrible, mais c'est un fait. Nous comprenons ça à cause du péché originel. C'est pour ça que le problème de la justice sociale s'est posé dans une perspective chrétienne. C'est un fait. Et dans une perspective religieuse. À cause que la personne humaine, en dehors du point de vue religieux, risque très fort de ne plus être comprise vraiment dans tout ce qu'elle est. Oui. Ne plus regarder que l'individu dans sa capacité d'efficacité. Ben, c'est anti-justice humaine. Donc, je suis tout à fait d'accord que ça s'enracine dans les rapports d'amitié et de justice. Ces rapports d'amitié et de justice existent indépendamment de Dieu. Mais c'est sûrement à l'égard de la justice, je dis bien, c'est sûrement à l'égard de la justice et de la justice distributive et de la justice légale que un État qui ne reconnaît plus le point de vue religieux et même qui s'y oppose en favorisant telle ou telle religion qui ne sont pas entièrement vraies. C'est ce qui arrive, si vous voulez. L'État turc, par exemple, est un État laïque. Donc, qui, de fait, ne regarde pas le point de vue religieux, mais le respecte. Donc, c'est pas du tout la même laïcité. Mais l'État turc regarde, évidemment, la majorité étant l'islam, c'est l'islam qu'on regarde. En France, étant le point de vue religieux n'est plus tellement regardé. Il y a des vieux restes. Très curieux de temps en temps. Mais autrement, non. Alors, est-ce que dans un état purement laïque, est-ce que la personne humaine, dans sa responsabilité à l'égard du mariage, à l'égard de la famille, à l'égard de l'éducation, est-elle encore assez sauvegardée? puisque la procréation qui fonde la famille ne peut pas être vue dans toute sa force, dans le dépassement moral, donc la dimension sacrée. Et je crois que la justice sociale regarde cette dimension d'une personne humaine responsable en face de Dieu de l'éducation de ses enfants. Et que l'éducation ne peut jamais être entièrement confiée à l'État. Quand l'éducation est entièrement confiée à l'État dans certaines idéologies, alors la justice sociale, qu'est-ce qu'elle devient? Puisque c'est l'État qui se charge de l'éducation. C'est surtout par rapport à la famille que ça joue. Par rapport aux qualités d'efficacité, on les reconnaîtra tout le temps. Mais les qualités humaines, éthiques, on a beaucoup de peine à les reconnaître. En dehors du point de vue religieux. Alors vous voyez, c'est un décor frontière, ça, je suis tout à fait d'accord, c'est un décor frontière. En droit, l'éthique humaine devrait pouvoir répondre à ça. Mais l'éthique humaine, comment répond-elle au point de vue du mariage, au point de vue de la procréation, au point de vue de ce qui représente aujourd'hui là, le point de vue de la fécondation artificielle? Qu'est-ce que ce sera en Europe? On tend toujours vers un libéralisme de plus en plus grand. C'est très curieux qu'une éthique qui n'est plus religieuse tend vers un libéralisme total. Et donc se détruit elle-même. Parce que c'est plus une éthique. Une éthique totalement libérale n'est plus une éthique. Elle ne respecte plus la vraie finalité de l'homme. Parce que la vraie finalité de l'homme, c'est quand même le point de vue de l'adoration. C'est quand même le point de vue de Dieu. Et alors, s'il n'y a plus ça, je crois que l'éthique se détruit. Alors c'est ça qui est très délicat. Il faut montrer à la fois qu'il y a une éthique humaine dans ses principes, mais dans son application, dans son exercice, elle ne peut être sauvegardée que par une éthique religieuse. Alors, c'est là, vous voyez, le point délicat d'aujourd'hui, c'est que si vous avez une perspective, non pas réaliste, mais d'ordre fémulogique, l'exercice détermine, alors vous direz, pas d'éthique humaine sans l'éthique religieuse. C'est pas vrai. L'homme est un animal éthique dans sa structure la plus lui-même. À cause de l'amour d'amitié. Mais ce qui est vrai, c'est que l'exercice plénier d'une éthique humaine ne peut pas se réaliser pleinement sans l'éthique religieuse. Vous voyez, là, il faut être. Vous essayez de bien voir ça. Parce que c'est pas commun. C'est intéressant, et sûrement le problème de la justice sociale à ce point de vue-là est un problème clé. Clé, parce qu'il manifeste. Dans ce sens-là, c'est pas un problème fondamental de principe. La justice sociale ne nous donne aucun nouveau principe. Là, je suis tout à fait d'accord. Aucun nouveau principe. Mais l'exercice de la justice sociale, je crois, ne peut se faire que dans une éthique religieuse. De fait, il est né dans une éthique religieuse. Bon, si vous avez d'autres questions là-dessus, vous essaierez de les rédiger. C'est important, hein, parce qu'en fond, il n'y a pas beaucoup de cours d'éthique sociale ici. C'est pas du tout parce qu'on la méprise, non, non. Parce que c'est... Vous n'avez pas beaucoup de temps, là, on assiste sur les choses les plus importantes. Mais l'éthique sociale est une chose qu'on doit connaître, la doctrine sociale de l'Église. Surtout en théologie. On doit la connaître. Alors que vous puissiez l'étudier déjà en philosophie, c'est très bien. Parce que ça touche le point de vue de la justice. Et certains se spécialisent du côté de la justice. C'est très bien. Là, c'est tout de suite le problème politique qui se pose avec la justice. Mais on ne peut pas faire une éthique politique sans une conception très nette de la justice et sans voir ce que l'attitude religieuse apporte de nouveau. C'est dans cette perspective-là qu'on s'était posé le problème de la justice sociale. Je continue. Qu'est-ce que la justice, qu'est-ce que l'adoration, donc l'éthique religieuse, doit apporter au niveau de la justice distributive, de la justice légale? Le problème de l'adoration, qui est un problème personnel, mais en même temps visible, c'est le corps et l'âme qui adorent Dieu. Donc, c'est l'adoration qui est le fondement de toute la liturgie, de la prière commune. C'est à cause de notre corps qu'il y a une prière commune. Si on était des âmes séparées, il n'y aurait pas de prière commune. C'est à cause du corps et à cause de l'adoration qui implique notre âme et notre corps. Notre corps n'est pas directement créé par Dieu. Mais notre âme est créée directement par Dieu. Et si notre âme est créée directement par Dieu, on comprend comment le corps qui vit par l'âme doit adorer Dieu. Parce que le fruit premier de l'âme, c'est le corps. L'âme détermine le corps. L'âme informe le corps. Et donc, un corps vivant n'est pas un corps mort. Il doit être offert à Dieu. Alors, au niveau justice distributive, l'adoration apporte une profondeur nouvelle, ce que je viens de vous dire, puisque je dois par là découvrir la dignité propre de l'homme. Et je dis bien la dignité propre de l'homme. C'est pour ça qu'on voit une justice distributive. Je me demande s'il n'y a pas une détermination nouvelle. Vous voyez, c'est un problème difficile, je ne veux pas le traiter, mais il faut au moins se poser les questions. Tu vois. En philosophie, ce n'est pas tellement la solution qu'il faut regarder, c'est le problème. Vous voyez, la justice distributive, vous voyez bien ce que c'est. Hein. C'est reconnaître la dignité de la personne humaine. Et en fonction de cette dignité de la personne humaine, si j'ai le gouvernement, je dois placer cette personne à telle, telle place, telle ou telle charge, telle ou telle officium dans le point de vue de la communauté. Un gouvernement, même un gouvernement d'une communauté religieuse implique ça. Tel frère a telle qualité, il a aussi telle limite. Ben, on fera attention. On tiendra compte de cela. On ne sera pas simplement l'ordinateur. Il y a un trou là, il y a les... Très bien. Et on verra la petite flèche qui circule. Un vie qui mettra là, il doit être là. Au point de vue gouvernement, un gouvernement religieux regarde en premier lieu la personne en vue de sa sainteté. Ceci, c'est surtout évidemment religieux chrétien, mais déjà religieux. Parce qu'il y a une sainteté religieuse. Une sainteté religieuse, ça c'est sûr. Et donc, je dois tenir compte de cette profondeur de la personne humaine qui est quelque chose de sacré, puisqu'elle est mais créé directement par Dieu. Et la personne humaine est capable de remonter directement par Dieu. Donc, il me semble, c'est le problème de la personne, on verra ça l'année prochaine, au point de vue métaphysique, est-ce que la personne religieuse apporte-t-elle pas une dimension du côté de l'amitié ne détermine pas si la personne humaine acquiert comme une nouvelle détermination grâce à l'adoration la justice distributive à quelque chose de spécifique dans l'éthique religieuse. Ce que je crois, elle a quelque chose de spécifique parce qu'elle regarde la personne humaine dans sa finalité propre qui est de Dieu. Et on doit être attentif à ça. Je n'ai pas le droit de ne pas regarder ça. Le lien de la personne humaine. Évidemment, ça n'existe pas beaucoup. Ça existait dans l'éthique religieuse de l'Ancien Testament. Ça, c'est sûr. Un seul Dieu, tu adoreras. Ça existe et ça doit exister dans tout gouvernement religieux. Dans le gouvernement de la paroisse. Si on est curé, on doit gouverner la paroisse. On doit tenir compte. C'est le point. Un chrétien n'a pas le droit de voter pour un gouvernement qui ne respecte pas la liberté religieuse. Un chrétien n'a pas le droit de voter pour quelqu'un qui ne respecte pas la liberté de l'éducation religieuse. Parce que là, on touche directement à ce que représente la personne humaine dans son droit le plus sacré. Et c'est pas du côté, vous voyez, du côté économique. Alors vous allez me dire, le point de vue économique est tellement important qu'il détermine tout. Oui, dans certaines visions, mais pas dans toutes les visions, le point de vue économique ne doit pas déterminer ce point de vue-là. Il conditionne, mais il ne détermine pas. Et quand on doit voter pour tel ou tel représentant, parce que c'est un acte politique qu'on fait, on n'en fait pas beaucoup d'actes politiques, mais on fait au moins celui de voter. Alors je sais très bien, quand on est dans des positions où on ne voit plus aucune politique qui respecte le point de vue religieux, alors on est vraiment très... C'est le moindre mal en politique. On vote là où il y a des chances que le point de vue religieux soit respecté. C'est très mystérieux, ça, un point de vue politique. C'est très très important, un point de vue philosophique. De voir... Et tout se ramène tout le temps à ça. Éthique humaine, éthique religieuse. Quelles sont les interférences entre les deux? Les interférences du côté objectif, du côté pratique. Quand je dis point de vue pratique, je prends le point de vue de l'exercice. Et voir comment les deux choses s'interfèrent et comment les deux choses peuvent très bien agir l'une sur l'autre. Mais il faut d'abord, vous voyez, il faut d'abord distinguer au point de vue éthique personnel pour ensuite comprendre politique, c'est-à-dire l'éthique communautaire, puisque la politique c'est l'éthique communautaire. Et il y a toujours les deux aspects. Or les distinctions se font du côté de l'éthique personnelle. Dès que vous êtes du côté communautaire, les distinctions sont beaucoup moins fortes, parce que vous devez regarder l'exercice. Là, à ce moment-là, dans certains cas, l'exercice peut déterminer. Elle peut impliquer certaines déterminations. Oui, je n'insiste pas plus, mais je vous montre qu'il y a là un problème délicat. Je crois que l'aspect religieux modifie la justice distributive. Alors, à ce point de vue-là, modifierait la justice sociale par le point de vue de la justice distributive. Parce que la justice distributive regarde la personne humaine, et le point de vue religieux permet d'avoir une vision de la personne humaine parfaite. Tandis que uniquement regarder le point de vue de l'amitié ne permet pas d'avoir cette vision parfaite. Je suis en face de quelque chose d'incoatif. Et la justice distributive est quelque chose de très délicat. Vous savez ce que dit saint Thomas ? La perversion de la justice distributive, c'est ce qu'il y a de plus grave quand on doit exercer la justice et le gouvernement. La perversion de la justice distributive. Vous voyez, la perversion de la justice distributive, c'est quand il y a la cote d'amour ou la cote du parti. Ah, tu es du parti, tu voteras pour moi, donc je te donnerai une bonne place. Ça, c'est une perversion de l'aspect politique. Et la perversion la plus grande qui soit, quand un chef d'État commence à faire ça, tout son gouvernement est perverti. Et tout pays, par le fait même, encaisse. Et c'est hélas ce qui se fait le plus. Oui, ça se fait sous des formes très différentes. Le parti ou la corruption. On donne de l'argent dessous. On paie. Alors la justice distributive n'est plus vue parfaitement. C'est pour ça qu'il me semble que la justice distributive ne peut s'exercer parfaitement que dans un point de vue religieux. Parce que la pression politique est telle que s'il n'y a pas ce point de vue religieux, on cède. Alors on arrive à ce qu'on voit, quoi. La justice généralisée. Hein. N'oubliez pas que la justice généralisée, c'est ce qui est dit dans l'Écriture. Et que la punition de la justice généralisée... c'est le déluge. Faut pas oublier ça. Dans une politique religieuse, c'est le déluge. Or, Dieu dit qu'il n'y aura plus de déluge. Ça prouve que c'est le retour du Christ. Au point de vue éthique chrétienne. Parce que humainement, il n'y a plus moyen de s'en sortir. On touche une telle perversion de l'intelligence qu'il n'y a plus moyen de s'en sortir. C'est trop perverti. Ça va trop loin. Oui. On voit ce qui se passe au point de vue procréation. Quand on voit ce qui se passe au point de vue famille, quand on voit ce qui se passe au point de vue... Je vous dis, c'est ce qui est dit textuellement dans l'Ancien Testament, la perversion généralisée. La perversion généralisée appelle le déluge. Mais comme Dieu a dit qu'il n'y aura plus de déluge, Dieu s'est noué les mains, vous voyez. Il a fait ça par amour. Il n'y aura plus de déluge, alors qu'il savait très bien que l'homme recommencerait. Un imbécile, n'est-ce pas, au plan politique. Un naïf, parce que c'est une naïveté prodigieuse. Alors, Dieu s'est lié les mains. Si Dieu s'est lié les mains, Dieu laisse à l'homme de dégringoler, dégringoler, dégringoler. Chut, de plus en plus grand. Dans tout cela, il y a des choses magnifiques parce que Dieu se sert de tout cela. Mais au point de vue commun, au point de vue du bien commun, c'est désastreux. Il faut quand même voir clair. Oui. La justice rétributive n'est plus du tout appliquée. Et c'est la justice rétributive n'est plus appliquée comme c'est la justice la plus qualitative. Tout le reste suit. C'est toujours la justice rétributive que vous. C'est pour ça que l'Église parle uniquement de la justice sociale. Quand l'Église parle de la justice sociale, l'Église ne devrait pas en parler. Ce n'est pas son rôle directement. Parce que c'est du temporel quand même. Ce n'est pas son rôle directement. Mais quand l'Église en parle, c'est le signal d'alarme. Attention, vous allez vers une pente qui pourra aller très loin. Alors l'Église rappelle. C'est comme quand l'Église rappelle qu'il faut avoir une philosophie réaliste. Normalement, l'Église ne devrait pas le rappeler. Ça va de soi. Mais quand l'Église rappelle, c'est parce que justement, les philosophes et les théologiens chrétiens ne sont plus entendus ou ne font pas assez leur fonction. Alors l'Église intervient. Et quand l'Église intervient, c'est donc une situation limite. C'est la même chose. Donc la conséquence de la perversion de la justice sociale, de la justice distributive, va avoir une répercussion sur la justice légale. Vous voyez, au plan philosophique, il faut toujours voir le noyau de la plus grande vulnérabilité pour comprendre par où se détruit la justice. Je crois, au plan philosophique, il me semble bien que c'est la justice distributive qui est la plus délicate. S'il y a perversion du côté de la justice distributive, il y aura perversion du côté de la justice communautaire et du côté de la justice légale. Du côté de la justice communautaire, c'est très simple à comprendre. Parce que vous comprenez que ce n'est pas encourageant pour les hommes, pour les travailleurs, de voir cette cote d'amour, si j'ose dire encore une cote d'amour, c'est la cote du parti politique. Alors ça vous dégoûte de toute espèce d'intervention, on a envie de lâcher. Et du côté légal, c'est la même chose, parce qu'on ne respecte plus l'homme dans sa dimension proprement personnelle. Alors on en arrive à un point de vue légal à tout simplement proposer comme loi ce qui se fait. Le fait et le positivisme à l'intérieur de la justice légale. C'est ce qui est ce qui est qui montre ce qui doit se faire. Pratiquement, il n'y a plus de garde-fous. Il n'y a plus d'arrêt possible. On abandonne la conduite de l'humanité à la quantité, à la masse. Et quand on abandonne la conduite de l'humanité à la masse, eh bien on sait que ça va descendre de plus en plus. Parce que la quantité comme telle n'a pas de finalité. Elle voit toujours ce qui est le plus facile. C'est ce qui se... C'est pour ça que ça se dégrade si vite. C'est le poids de la quantité, ça. Il n'y a plus personne pour rappeler la qualité qui conduit à la finalité. La grande qualité au point de vue éthique, c'est la finalité. Si vous ne voyez plus la finalité, il y a la dégradation généralisée. Alors, je crois que c'est ce qu'on vit à des niveaux différents, aussi bien en Amérique qu'en Europe. À des niveaux différents. Et en Europe, à des niveaux différents. Et en Afrique, à des niveaux différents. Mais c'est le mal est généralisé aujourd'hui. On ne sait plus ce que c'est que la justice légale, parce qu'on ne sait plus ce que c'est que la loi. La loi, c'est rappeler à l'homme sa finalité et les exigences de sa finalité. C'est proclamer qu'en raison des exigences de sa finalité, l'homme doit se conduire de telle manière. Comme il n'y a plus de finalité, ni humaine, ni pleinement humaine, c'est-à-dire religieuse, ni partiellement humaine, l'amitié. On est en face de lois qui regardent tout simplement ce qui se fait. Suffrage universel. C'est en raison du suffrage universel qu'on établit les lois. Et un suffrage universel qui, la plupart du temps, est très falsifié. Mais on le donne, et ça justifie tout. Et la loi du grand nombre justifie. Donc, c'est vraiment le point de vue de la quantité qui l'emporte. Ça, depuis déjà un certain nombre d'années, hein, faut pas. Ça se prépare, c'est juste là, lentement, un primat de la quantité. Alors, on voit comment ce primat de la quantité agit sur les lois et sur l'humanité tout entière. Vous voyez, quand vous regardez le propre de la bioéthique, alors c'est pas au niveau politique, c'est quand même au niveau national. Vous voyez bien que l'éthique n'est plus regardée par rapport à la personne humaine, mais par rapport à la culture, par rapport aux réactions des hommes. Si on est scandalisé, si on n'est pas scandalisé, si ça passe ou si ça passe pas, si ça risque de mener une révolte, il n'y a plus du tout de ce que représente l'homme en tant qu'il est un être spirituel. Et en tant qu'il a une finalité propre et personnelle. Il faut beaucoup réfléchir là-dessus.